Allez, vous venez d'écouter un vieux groupe de hardcore américain, Feeders, avec le morceau Jesus. Juste après, c'est un groupe de punk polonais actuel. C'était un morceau qui s'appelle Wyczko Kosztale. Et puis, à l'instant, du hardcore texan des années 80, là encore, avec le morceau Too Political.
Ne de güzel kulakların var, ne de güzel kulakların var. Altın küpe ister Osman Aga, altın küpe ister Osman Aga.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Ce lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir. Il est 19h04 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et vous êtes à l'écoute du Canu Info du lundi.
Et ce soir, donc après les traditionnelles brèves, nous ferons un petit quiz présidentiel. Et oui, car dimanche, eh bien, ce sont les élections, le premier tour des élections présidentielles. On va bien rigoler. Et après, au national, on parlera, là, on rigolera moins, d'un crime policier à Aulnay-sous-Bois. Et on vous passera ensuite une interview de camarades toulousains du comité de soutien aux inculpés du 8 décembre qui nous parleront notamment de la grève de la faim de Libreflot.
Et puis au local, on aura un petit reportage sur le rassemblement pour la fin de la trêve hivernale. Et on aura deux petits sujets. On parlera à la fois d'un procès de Baqueux encore reporté et puis de la dissolution de la GAL.
Et pour finir, on aura une interview en direct donc avec aujourd'hui Ludo qui fait partie de la CGT, du syndicat de la livraison, qui nous parlera à la fois du procès de Deliveroo, mais aussi des conditions de travail des livreurs et des livreuses à Lyon, mais aussi en France. Voilà, et on commence donc...
Tout de suite par les brèves.
Et oui, et c'est moi. Alors, trois brèves aujourd'hui. La première, hier, le 3 avril, il y avait la marche dite des mutilés, pour l'exemple. C'était à Paris, dans le cortège de très nombreux et nombreuses blessés à vie, notamment lors du mouvement des Gilets jaunes. Il y en a eu beaucoup, des éborgnés, des mains arrachées. Et puis, il y avait aussi des proches des victimes des crimes policiers. Ses victimes, surtout ses proches de victimes et ses blessés, dont personne ne parle jamais, en tout cas quasiment aucun candidat au présidentiel, entre autres, et aucun média, eh bien ils étaient là, pour les vivants donc, dignes, et la marche fut belle. Force et courage à elles et eux dans ce combat qui n'est pas prêt de s'arrêter. Ensuite, hier, toujours, il y a eu de très gros affrontements en Corse, notamment à Ajaccio, mais également à Furiani, où ces gros cons de CRS, rappelez-vous, avaient été filmés dans leur caserne en train de beugler la Marseillaise le jour de l'enterrement d'Ivan Colonna. La Corse en colère depuis le 2 mars contre l'assassinat d'Ivan Colonna, mais pas que, également pour la fin de la mainmise coloniale de la France sur leur territoire. Et cette colère, ces soulèvements réguliers et intenses sont en train d'imposer des concessions au gouvernement, comme quoi il n'y a bien que ce biais-là que comprend l'État français. Et pour finir, une info à l'international, même si on ne fera pas d'international aujourd'hui, quand même, entre 2015 et 2020, on a appris que la France, l'un des principaux pays vendeurs de morts au monde, a fourni pour l'équivalent de 152 millions d'euros de matériel militaire à la Russie. Des chars, des avions de chasse, des hélicoptères de combat, avec évidemment tout ce que Dassault peut représenter là-dedans, utilisés aujourd'hui pour tuer des civils en Ukraine, donc, dans cette guerre impérialiste horrible que mène la Russie aujourd'hui. La France a donc du sang sur les mains, et pas qu'un peu, c'est la troisième plus grande vendeuse d'armes au monde. En 2021, elle a empoché et vendu pour 28 milliards d'euros de ventes d'armes. Les armes françaises tuent partout, en Ukraine, au Yémen, dans les anciennes colonies de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, en Égypte, etc., etc. Bref, avant de cibler d'autres impérialismes, ciblons le nôtre, celui de la France.
Et maintenant, on enchaîne tout de suite avec notre rubrique spéciale élection et on commence avec un jingle de boomer.
Qui est qui ?
Et oui, c'est le quiz qui est qui ? Et non, on ne va pas écouter tout de suite la chanson, c'est le quiz qui est qui. Alors comme vous le savez peut-être, hein, dimanche c'est les élections présidentielles, le premier tour. Et pour fêter ça, on vous propose un petit quiz autour des candidats. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Oui, bon Ludo, tu peux participer si tu veux. Tu as le droit.
Ouais, très très chaud.
Allez.
Eh bien c'est parti. Alors le 25 avril 2019, lors des élections européennes, le MEDEF avait convoqué les têtes de liste à un grand oral. Quel candidat a été jugé le plus convaincant par les patrons ?
Il faut répondre là ?
Oui.
Yannick Jadot ? Parce qu'il était très convaincant, je crois.
C'est tout à fait ça, oui. Voilà. C'était Yannick Jadot, bravo, tu as déjà marqué un point.
Eh ouais. non mais j'avais lu un truc comme ça.
Alors je suis née à Perrins dans la Drôme, je suis fille de garagiste, je suis...
Fille ?
Ah, Nathalie Arthaud ?
Eh oui, bravo.
Ah oui. Ah, je suis drômoise.
Ouais, de toute façon, il y en a combien ? Trois, des meufs ?
C'est ça. Ouais, c'est sûr que ça restreint un peu les possibilités. Alors maintenant, une question revenue. Un indice s'affiche en bas de vos écrans pour les téléspectateurs chez vous.
Merde.
Mais ici, vous n'avez pas d'indice. Quel candidat propose la plus grosse revalorisation du SMIC ?
Nathalie Arthaud.
Et oui, c'est Nathalie Arthaud. Vous 2000. Êtes très très 2000. Fort. Ouais. Tout à fait, elle propose plus 770 euros.
Elle propose 2000, ouais, je crois.
C'est ça, donc ça veut dire plus 770 euros par rapport à l'état du SMIC actuel. Les candidats qui proposent aucune revalorisation du SMIC, c'est Éric Zemmour, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan. Alors Marine Le Pen, elle ne propose pas d'augmentation, mais une exonération de 10% des cotisations patronales pour les salaires qui vont jusqu'à 3 fois le SMIC, parce que évidemment que les patrons vont faire ruisseler toutes ces économies sur les salaires directement, on n'en doute pas. Après, il y a Valérie Pécresse qui propose une augmentation de 60 euros sur 5 ans. Pour les autres, ça va de 170 euros à en effet 770 euros pour Nathalie Arthaud. Quel candidat propose de réduire le plus le temps de travail ?
Philippe Poutou.
Ouais.
Et oui, mais en fait, vous êtes trop fort, je peux même pas faire. C'est Philippe Poutou qui propose de commencer par une semaine de 28 heures. Alors, Arthaud, elle propose une diminution sans donner de chiffres. Roussel, il propose 32 heures immédiatement. Et pour info, Mélenchon, il propose le passage à 32 heures seulement pour les travaux pénibles. Quel candidat propose de limiter le droit d'asile, bon, celle-là elle est facile, à une centaine d'individus par an?
Zemmour.
Qui ment d'ailleurs allègrement hein, dans son programme en prétendant qu'aujourd'hui il y a 140 000 personnes qui sont réfugiées par an. En réalité, il y a 140 000 demandes d'asile par an. Mais en 2020, l'OFPRA et la CNDA ont prononcé 24 181 décisions accordant un statut de protection. Donc, que ce soit le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, je rappelle que la protection subsidiaire, elle permet d'obtenir une carte de séjour de 4 ans maximum. On est donc très très loin des 140 000 réfugiés censés être accueillis par la France, selon Zemmour. Alors maintenant, quel candidat a une carrière de journaliste?
Mélenchon.
Roussel.
Peut-être les deux, ouais.
C'était Roussel, mais je n'ai même pas eu le temps de te faire le bip. Donc,
c'est ça que tu cherchais.
Vous êtes trop rapide.
Pas mal, pas mal.
Oh, attends, Mélenchon aussi, il était journaliste.
Ah bon,
et non,
il n'était pas sénateur.
Je crois qu'il était sénateur.
Oui, il était.
Puis ministre.
Il était, sénateur, donc.
En tout cas, c'est Roussel qui était journaliste.
Il n'était pas journaliste à Radio Canu.
En effet, non, c'est sûr. Non. Alors, quel candidat a été? Alors, c'est une rubrique très très. C'est une question très très longue, malheureusement. Je viens de passer 3h30 à chercher toutes les condamnations des candidats. Donc, quel est celui qui a été le plus condamné par la justice?
Zemmour.
C'est Zemmour, évidemment. Alors, je retiens que les condamnations en appel, hein, parce que sinon c'était beaucoup trop long pour éplucher ça pour chaque candidat. Alors, Zemmour, il a été condamné à 1 000 euros d'amende pour provocation à la haine raciale. Il avait dit en 2010 que la plupart des trafiquants étaient des Noirs et des Arabes. Le même jour, il avait aussi déclaré que les employeurs avaient tout à fait le droit de refuser des Noirs et des Arabes. Il a écopé 2 000 euros d'amende. Ensuite, il a été condamné pour provocation à la haine religieuse, pour avoir dit que, sur France 5 que la France subissait une invasion depuis 30 ans visant à islamiser le pays. Là, il a eu 3 000 euros d'amende. En janvier, il est condamné à 10 000 euros d'amende pour provocation à la haine et à la violence après ses déclarations sur les mineurs isolés qu'il avait qualifiés de violeurs, assassins et voleurs. Le 4 mars, il a de nouveau été condamné pour utilisation d'images ne lui appartenant pas, donc pour son clip de campagne. Il a été condamné à verser 70 000 euros aux plaignants.
Ouais, ça, c'est fort.
Alors, il a énormément d'affaires en cours hein, qui ont déjà été jugées en première instance pour certaines assez sévèrement, mais pour lesquelles on attend encore l'appel, mais c'est déjà très long. Mais les autres candidats ne sont pas en reste. Hein. Mélenchon, il a été condamné à 3 mois de sursis et 8 000 euros d'amende en 2019 pour rébellion lors de la perquisition du siège de la France Insoumise, dont on se souvient tous. Il a aussi une amende de 500 euros avec sursis pour injures publiques et diffamation envers Radio France. Il les avait traités d'abrutis, de tricheurs et de menteurs sur une vidéo sur sa page Facebook suite à l'enquête de la cellule investigation de Radio France sur ses comptes de campagne. Il a aussi été condamné à 500 euros avec sursis pour diffamation après avoir qualifié un journaliste du Monde d'assassin repenti. Hidalgo aussi a pas mal été condamné, hein, notamment dans des affaires de diffamation. En 2016, à 500 euros d'amende avec sursis pour avoir diffamé un architecte travaillant sur le patrimoine parisien. Et en 2017, elle a été condamnée, et nous ne le savions pas, pour diffamation contre le Front National. Elle a été condamnée à une amende de 500 euros pour avoir dit que le parti avait soutenu la collaboration.
Ça va, c'est gentil, Hidalgo.
Jadot, et je pense que vous ne le savez pas, mais Jadot a été condamné en 2005, enfin pour une affaire en 2005, où il avait pénétré dans une base opérationnelle dans la rade de Brest, où séjournent des sous-marins nucléaires, lorsqu'il était directeur de campagne de Greenpeace.
Mais oui, si, si.
Il avait donc été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende. Et il reste une seule personne qui n'a pas été condamné, que je n'ai pas cité.
Bah non, il y en a deux. Il y a Philippe Poutou, il n'a pas été condamné, Philippe Poutou.
Non, que je n'ai pas cité et qui a été condamné.
Ah oui, je me disais bien. Nathalie Arthaud, d'ailleurs.
C'est Marine Le Pen qui a été condamnée avec son papa en 2010 pour complicité de diffamation envers un autre élu frontiste. Bref, je sais pas, ils sont insultés par communiqué interposé. On s'en bat les couilles. Alors, ensuite, qui a dit rien de mieux qu'une femme pour faire le ménage?
Zemmour.
Ça pourrait être la salle, ça, non?
Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être la salle.
Ah, ça marche pas du tout, ce buzz, finalement.
Moi, je l'entends.
Je l'arrête. Et non, c'est Valérie Pécresse lors de sa campagne pour les élections régionales de 2015, alors qu'elle organisait une action de propreté dans un parc public.
Excellent.
Quel candidat maintenant a fait une grève de la faim de 39 jours ?
Jean Lassalle. C'est le seul qui est capable de faire tout comme ça.
En effet, c'était plutôt facile. Elle a fait une grève de la faim pour sauver une entreprise de la délocalisation en 2006. Vous pouvez voir un magnifique portrait de lui suite à cette grève de la faim sur je ne sais plus quel média. Quel candidat a dit « Nos vies, leur vie valent plus que tout leur profit » ?
Ah, ça... Je crois que c'est Emmanuel Macron.
Et oui, c'est Macron.
C'est sur ses affiches, non ?
C'est Macron ce samedi lors de son meeting à la Défense Arena. Voilà. Et enfin, non, mais pas enfin d'ailleurs, presque enfin, quel est le seul candidat qui s'est positionné contre le recrutement de nouveaux policiers ?
Philippe. Alors, c'est pas Fabien Roussel déjà, ça c'est certain. Eh bien, Philippe Poutou.
Et oui, tous les autres candidats, sauf Arthaud qui ne s'est pas prononcé sur le sujet, ont demandé le renforcement de la police. Alors certains avec des chiffres à l'appui, hein, Jean Lassalle, il demande le recrutement de 6000 gendarmes, Roussel, le recrutement de 30 000 agents publics, formant une police de proximité, Marine Le Pen, 7 000 postes de policiers, Nicolas Dupont-Aignan, 30 000 représentants des forces de l'ordre, 10 000 gendarmes et policiers mobiles. Et voilà, et les autres ne donnent pas forcément de chiffres, mais ils sont tous pour l'augmentation des effectifs de police. Et je cherche mon papier, j'en ai beaucoup trop. Et enfin, voilà, non, dernière question, qui a dit « l'imagination gouverne le monde » ?
Alors là...
Macron ?
Enfin, ça a marché. Et non, ce n'est ni Julien Coupa, ni Walter Lewino, c'est Napoléon Bonaparte. Voilà, c'était un
piège.
C'est un piège.
Et bravo à vous trois, hein, vous remportez tous une carte électorale vierge au format A4 que je vous donne.
C'est pas mal.
Voilà.
Et ben après ce petit jeu, on va écouter une petite musique.
Ouais, on dédicace aux mutilés de la police.
Et aux gilets jaunes.
Bien sûr.
La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un frein, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit. Il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues. Et puis que l'Elysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y'a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz. Prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes. Des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils. Des flics, des CRS nous chassent de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfants en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer. Les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues. Escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que t'as hurle, c'est pas la tienne c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la magnifique, tu vois les flics se ganter. Deux minutes après, tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont. sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés. Le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y'a aussi des flics déguisés aux matraques aiguisées qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle même paraît être la marionnette du mal qu'il inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier, faut que vous le sachiez. C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? C'est la révolution, on devient tous.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous venez d'écouter Gilet jaune de d'Instinct. Et on passe tout de suite.
Ok, Macron.
Non. Et non, il faut tourner le petit bouton.
Tout à fait. National. Et on commence tout de suite avec un crime policier du côté de Aulnay-sous-Bois.
Ouais, encore un. Alors, ça se passe le 26 mars à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Jean-Paul, 33 ans, père de famille, est arrêté au volant d'une camionnette à un feu rouge par plusieurs hommes non identifiables, car en civil et sans brassard. Or, ces hommes, ce sont des BACE, donc de la BAC, la Brigade Anticriminalité, et ils ont été filmés par des caméras de vidéosurveillance. Alors, quelle est la situation exactement ? Jean-Paul est arrêté à un feu rouge. L'un des policiers de la BAC, sans brassard et en civil, donc s'avance vers la camionnette et tire, alors même que ni lui ni ses collègues ne sont en danger, sachant que tous sont derrière la camionnette et ne sont absolument donc pas en danger. Leur position est évidente puisque la balle qui a été retrouvée est entrée de l'arrière du véhicule et est venue se loger dans la cage thoracique de Jean-Paul qui est donc est mort peu de temps après. Alors à ce moment-là, les caméras de vidéosurveillance n'ont pas encore été étudiées le soir même et pourtant immédiatement deux versions s'affrontent, une fois n'est pas coutume. Celle de la BAC, de leur hiérarchie et des médias mainstream qui salissent la victime. On le traite de délinquant, de voleur et surtout tout est fait pour faire croire que Jean-Paul a essayé de foncer sur les BACEux et que ces derniers auraient agi en état de légitime défense, la fameuse légitime défense. En face, les habitants de Sevran, la ville où habitait Jean-Paul, bien trop habitués aux violences et aux mensonges policiers, se sont révoltés dès le premier soir, dès le 26 mars, et ce pendant plusieurs jours, voyant leurs potes, leurs connaissances, leurs voisins, non seulement tués par la police, mais surtout salis. Pendant plusieurs nuits d'affilée, des affrontements ont eu lieu à Sevran, pendant que police et médias racontaient n'importe quoi. Mais depuis le 2 avril, la vérité a éclaté suite au visionnage des caméras de vidéosurveillance où tout est clair comme de l'eau de roche, il n'y a pas de légitime défense, il y a un crime policier. Et en ce qui concerne le soi-disant statut de voleur de Jean-Paul, notamment en ce qui concerne la camionnette, eh bien, on apprend depuis le 2 avril que c'était lié au fait que ce dernier conduisait la camionnette dont il se servait depuis plusieurs mois dans le cadre de son travail de livreur. Étant en conflit avec son employeur, l'employeur avait déclaré le véhicule volé. La boucle est bouclée, les flics ont voulu régler à leur sauce un problème de vol de véhicule en utilisant l'argument de la légitime défense. Maintenant, par contre, ils parlent en cœur d'un accident. Tu parles d'un accident. Et cette version policière aurait pu passer, elle passe tellement de fois, la version de la légitime défense. Alors, recitons par exemple Aboubacar Fotana en 2018 à Nantes, tué par un CRS. Là encore, légitime défense. Et pourtant, tous les témoignages extérieurs à la police vont dans le sens inverse. Crime impuni. L'été dernier, à Stein ou encore à qu'est-ce que j'ai écrit à Rony, pardon. Oui. À Stein ou encore à Rony, des flics de la BAC, encore une fois, sans brassard et en civil, sont filmés en train de vider littéralement leur chargeur. On en avait déjà parlé plusieurs fois sur des véhicules qui ne représentaient là aussi aucun danger. Encore une fois, l'argument légitime défense est utilisé. Crime ou tentative impunie, voire pire. Mise en cause, notamment pour la personne de Stein qui s'est pris 6 balles dans le corps. Mise en cause, y compris judiciaire. Cette barbarie policière est en augmentation et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Tout a été fait sur les derniers quinquennats pour leur permettre de trimballer leurs armes, y compris en dehors du service, et de les utiliser. Ce sont des revendications de longue date des syndicats d'extrême droite de police. On se rappelle, en 2012, les manifestations de flics armés dans leurs véhicules de police sur les Champs-Élysées, notamment, hein, qui avaient ce type de revendications. Dès 2015, dans le cadre de l'état d'urgence et donc d'un état d'exception, le PS autorisait les flics à garder leurs armes en dehors du travail. En 2017, le PS, encore lui, a assoupli le cadre de la donc fameuse légitime défense et a permis aux flics de tirer pour, je cite, « défendre un lieu sur leur responsabilité » ou lorsqu'ils doivent empêcher un détenu de s'échapper, mais aussi pour empêcher une voiture de se soustraire à un contrôle. Et c'est bien, ces dernières années, ces faits-là qui effectivement sont mis en avant. Et pire, en 2020, la loi dite sécurité globale a permis aux flics de se balader armés dans des boîtes publiques. Bref, quel que soit le gouvernement de ces derniers quinquennats, les flics ont de plus en plus de pouvoir et donc d'impunité, ou au minimum de sentiment d'impunité. La mort de Jean-Paul en est un nouveau bien triste exemple, et les députés, les ministres et les flics ont tous du sang sur leurs mains.
Et on continue toujours sur les injustices. On en a longuement parlé à plusieurs reprises ici de l'incarcération de Libreflow dans l'affaire du 8 décembre. On écoute tout de suite une interview de deux membres d'un de leurs comités de soutien, le comité de soutien toulousain.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ou présenter le comité de soutien aux inculpés du 8 décembre ?
Alors déjà, il y a plusieurs comités de soutien. Ouais. Nous, on ne sait pas vraiment si on a comité. En tout cas, on est des proches et des soutiens de Libreflow et des inculpés du 8 décembre. Nous, du coup, on est les proches de Toulouse. Et après, il y a des comités dans d'autres villes. Il y en a à Rennes, il y en a à Paris.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a différentes personnes de Rennes, de Paris, de Toulouse là, qui ont été inculpées ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement le déroulé de l'affaire de son début aux incarcérations des uns, des unes et des autres ?
L'affaire, entre guillemets, commence le 8 décembre quand il y a une très grosse opération policière qui arrête neuf personnes un peu partout en France, dont chez nous à Toulouse, où il y a deux personnes qui sont arrêtées, dont Libreflow, dont on va parler après, qui est actuellement en grève de la faim.
Le chef d'inculpation, c'est association de malfaiteurs à visée terroriste. Les neuf personnes sont arrêtées le même jour, dès 6h du matin, tout le monde s'est fait attraper, quoi. Grosse opération, par endroit il y a de la BRI, ou enfin, chez nous par exemple ça a été plus d'une cinquantaine de flics, mais différents, quoi. Nous, le temps qu'on capte un peu l'histoire, que c'est aussi gros, ça a été difficile de s'organiser. La première semaine, on a fait que apprendre qu'il y avait une personne en plus, deux personnes en plus, jusqu'à arriver à, ouais, ils sont neuf à s'être fait choper, quoi. On commence à capter un peu l'ampleur du délire. Du coup, de là, deux personnes vont ressortir et du coup, sept se retrouvent après les trois jours de garde à vue. Sept se retrouvent en détention provisoire.
Ensuite, les sorties sont faites au compte-goutte mois après mois. Et on attend toujours celle de Flo. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation, elle est d'autant plus compliquée que ce qu'ils appellent une association de malfaiteurs, en fait, c'est des gens qui ne se connaissent pas entre eux, d'où le fait qu'on a mis beaucoup de temps avant de savoir qui était arrêté et pourquoi. Ces personnes, elles ont simplement en commun de connaître Flo, de connaître Libreflow. Libreflow qui est surveillé par la DGSI depuis son retour du Rojava, du Kurdistan syrien, où il a combattu aux côtés des Kurdes contre Daesh. Et depuis son retour en France, on a compris après coup qu'il était surveillé constamment par la DGSI, qui du coup le soupçonnait de vouloir s'attaquer à des filles. On n'en sait toujours pas précisément plus, vu qu'eux-mêmes n'ont pas l'air d'en savoir beaucoup plus, mais bon, ils considéraient comme dangereux.
Ok, et justement, donc, une partie des inculpés qui ont été relâchés au compte-goutte, Libreflow, il est incarcéré depuis combien de temps aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ses conditions d'incarcération, notamment de son isolement ?
Alors, du coup, ça fait maintenant 15 mois qu'il est incarcéré.
La prison de Bois d'Arcy.
Il a été en régime de l'isolement dès le départ. Du coup, le régime de l'isolement s'est renouvelé tous les 3 mois. Et au bout d'un an, ça passe devant une espèce de commission. Et c'est le ministre Dupond-Moretti qui décide de maintenir ou pas l'isolement, ce qui a été fait. Sans vraie raison, en fait, normalement, pour maintenir quelqu'un à l'isolement, il faut qu'il soit ou dangereux pour les autres ou dangereux pour lui-même, ce qui n'est pas le cas. Depuis le mois de janvier, où il s'est retrouvé le dernier à être encore incarcéré, on lui a fait comprendre que s'il était maintenu sous ce régime-là et encore en tôle, ça ne dépendait pas du directeur de la prison ou du juge, que ça venait de plus haut et que la période, donc à comprendre les élections, était compliqué pour qu'il puisse sortir et préparer sa défense comme tous les autres.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que les conditions spécifiques très précises de l'isolement depuis 15 mois? Qu'est-ce qu'il vit en fait en prison?
Bon, en fait, ce qu'il vit, c'est la prison avec aucun contact. Alors, il a le droit à des parloirs, même, mais c'est les seuls contacts qu'il a. Il n'a pas le droit d'être en contact, même visuel, avec les autres détenus. Il sort en promenade seul. Il est seul toute la journée. Il est absolument seul. Il n'a pas de moyen de communication avec des gens, simplement. Ce qui provoque évidemment de gros dommages sur le cerveau, parce qu'on est des êtres sociaux, on n'est pas fait pour ne pas parler à des gens. Ça s'appelle simplement de la torture, d'empêcher les gens de pouvoir parler avec d'autres gens. Et il a vécu ça pendant 15 mois. Il s'est mis en grève de la faim il y a maintenant 32 jours pour réclamer sa sortie de prison. On rappelle qu'il n'a pas été jugé, qu'il n'a pas été condamné, qu'il vit une peine pour laquelle il n'a pas été condamné. Voilà, son isolement a été levé il y a quelques jours, ce qui, dans l'absolu, dans l'immédiat, change rien, vu que pour le moment, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital sous perfusion.
Il a écrit pas mal de lettres, justement, pour parler un peu de son isolement, de sa détention et des conséquences qu'elle avait physiquement, psychologiquement. On mettra sur le blog du Canu Info les liens vers les différentes lettres qu'on a déjà lues à l'antenne pour certaines. Est-ce qu'on peut parler peut-être plus spécifiquement de la grève de la faim? Quelles ont été les réponses de l'administration pénitentiaire et peut-être aussi de la justice?
Au niveau de la justice, rien, hein, c'est silence radio. Les premières semaines, globalement, il ne s'est pas passé grand-chose, bien qu'on savait que la direction suivait le dossier, que le directeur avait rendu visite plusieurs fois à Libreflot, il n'y avait rien qui se débloquait. Voilà, ils ont gentiment attendu qu'il soit tellement faible qu'il faille le transférer à l'hôpital pour qu'on prononce la levée de son isolement. Mais pour le moment, voilà, les demandes de mise en liberté sont toujours refusées, alors qu'il n'y a aucune justification à ça, quoi. Donc, pour le moment, il a aussi obtenu le droit de parler avec une des autres inculpées, parce qu'évidemment, les inculpées n'ont pas le droit de parler entre elles.
Après, donc, 32 jours de grève de la faim, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà donc ce qu'on peut obtenir avec l'administration pénitentiaire. Après 32 jours de grève de la faim, ça semble quand même absolument ahurissant, alors même que visiblement l'enquête piétine complètement. Vous n'avez pas tellement de nouvelles de ce qui se passe?
Non, on s'attendait à ce que l'enquête soit bouclée plus tôt, en fait. Mais de toute évidence, le juge décide, pour des raisons qui nous sont inconnues, de maintenir le dossier ouvert. Ils peuvent le garder en préventive encore très longtemps, malheureusement. Ça, c'est ce qui nous inquiète.
On voulait savoir aussi comment si des gens veulent soutenir, est-ce qu'il y a un moyen de loin de soutenir Libreflot
Ouais, alors il est OK pour écrire. Il a souhaité pas rendre public son numéro d'écrou, mais par contre, c'est possible d'envoyer des lettres au comité de soutien qui font suivre. Les adresses des comités de soutien, elles sont sur notre blog, qui est soutien aux inculpés du 8 décembre.noblogs.org.
On mettra le lien aussi sur notre blog, avec l'adresse aussi où écrire et le lien du blog.
Donc voilà, c'est possible de lui écrire en passant par nous. Il y a une cagnotte en ligne également pour soutenir financièrement. Et après, il y a des rassemblements qui sont organisés régulièrement. Le 4 avril, lundi, ça sera une journée internationale de soutien parce qu'il y a des soutiens aussi internationaux. Il y aura des rassemblements dans plusieurs pays et en France, il y en aura pour le moment à Toulouse et à Paris. On espère qu'il y en aura dans d'autres villes. Donc voilà, c'est possible d'organiser des rassemblements, c'est possible de distribuer des tracts. Donc ce qu'on peut faire, c'est avant tout de faire tourner l'information qui tourne malheureusement encore trop peu, quoi.
Eh ben merci à vous et puis bon courage pour la lutte à venir et soutien et force à Libreflow. Ben,
pareil. Ben, merci, on transmet et force à vous aussi.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h36. Vous écoutez les infos du lundi. On passe tout de suite à l'info locale avec un reportage sur le rassemblement de ce jeudi contre la fin de la trêve hivernale. On écoute tout de suite ça.
Aujourd'hui, l'Interorga Logement 69 a organisé un rassemblement pour la fin de la trêve hivernale. C'est la période, donc la trêve hivernale, c'est la période où normalement il n'y a pas d'expulsion, donc pas d'expulsion locative, moins d'expulsion aussi dans les squats, les campements. Et du coup, à partir de demain, les expulsions reprennent ainsi que les coupures d'électricité et de gaz.
En 2021 en France, c'est plus de 1300 expulsions d'habitats informels, donc de squats, bidonvilles et campements, soit 472 personnes expulsées par jour, dont 91% ne se sont vues proposer aucune solution d'hébergement. C'est aussi 400 000 personnes qui sont sans abri et 2,8 millions de personnes qui sont mal logées. Pourtant, on compte plus de 3 millions de logements vacants.
Depuis deux ans, à Lyon, il y a de grandes annonces qui sont faites par les nouvelles équipes. Pourtant, le constat est sans appel. Dans la métropole lyonnaise, il faut des années pour accéder à l'hébergement ou au logement. Au moins 2500 personnes sont à la rue, dont de nombreux mineurs, alors qu'il y a 18 000 logements vacants. Donc les institutions se dédouanent constamment de leurs responsabilités en se renvoyant la balle à chaque fois.
Eh ben, du coup, on est sur l'esplanade Moncey. Et en fait, avant, il y avait la DDE TCS, mais qui a déménagé entre-temps. Et donc, il y a un rassemblement où il y a la chorale qui chante, il y a des témoignages qui ont été affichés, il y a tout plein de monde, il y a des tentes qui ont été déposées et puis il y a eu des prises de parole.
Donc, avec l'Interorga Logement, on exige un logement abordable, stable, décent, durable et écologique pour toutes et tous, sans discrimination. L'arrêt des expulsions et des procédures, l'effacement des dettes de loyer, pas de remise à la rue des personnes sans-abri, ni de coupure d'énergie, l'arrêt de la répression contre les sans-abri, les habitats alternatifs, les squatteurs et squatteuses, les précaires, avec ou sans papier, les exilés et dans les quartiers populaires, l'application réelle de la loi de réquisition, de la loi DALO, du droit à un hébergement jusqu'au relogement, des lois votées pour nous protéger, la baisse des loyers, la revalorisation des APL, la taxation des profits de la spéculation, des sanctions contre les bailleurs fraudeurs et la limitation d'Airbnb. La réalisation massive de vrais logements sociaux et étudiants, la réhabilitation sans hausse de loyer, on veut 30% d'HLM dans chaque ville, l'augmentation des aides à la pierre, l'arrêt des ventes HLM, des destructions HLM et des projets urbains de gentrification. Garantir l'accès à la santé des personnes sans domicile, ainsi que l'accès à l'eau potable, à des sanitaires et au ramassage des déchets sur tous les lieux de vie. Et les mêmes droits pour les résidents et résidentes de centres d'hébergement, de foyers, de résidences CROUS, de résidences sociales ou étudiantes. Donc ces mêmes droits que les droits qu'ont les locataires.
Donc simplement pour rappel, la préfecture a la prérogative de l'hébergement inconditionnel, la métropole l'obligation de prise en charge des mineurs et des familles, et les mairies jouent aussi un rôle important dans la construction, la réhabilitation et l'attribution de logements sociaux.
Donc l'interpellation ce soir, c'est juste ça, c'est de dire comment est-ce que la préfecture, comment est-ce que la métropole explique qu'un droit qui est inconditionnel est soumis à condition. Voilà.
Pour résumer, la préfecture, elle peut réquisitionner des bâtiments. Elle peut déléguer ce pouvoir à d'autres institutions comme la métropole et la mairie peut également promulguer des arrêtés municipaux. Ça permet de réguler la spéculation et la financiarisation et on sait que c'est un facteur important et déterminant dans l'accès au logement des ménages.
Réquisition !
contre les expulsions, réquisition, contre les expulsions.
Donc là, dans la situation dans le Rhône cet hiver, en fait, 80% des personnes que nous avons rencontrées dans notre centre de soins à Lyon donc, vivaient en habitat précaire, donc à la rue, en squat ou en campement, par exemple. Et donc là, l'absence ou la précarité de logement, en fait, ruine la santé. En décembre, en fait, il y avait 1500 appels au 115 par semaine pour une demande d'hébergement d'urgence. Et en fait, parmi ces appels, il y a 70% qui sont restés sans solution d'hébergement.
Logement vide, il y a pourtant des logements vides qui ne demandent qu'à la 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 la, qui ne demandent qu'à être occupés, qui ne demandent qu'à la 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 la, qui ne demandent qu'à être occupés. Si la police les expulse, si la police les expulse, on va devoir la 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 la. On va devoir les prier, on va devoir la 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 li la la, on va devoir très fort prier. Non, 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 aux expulsions. Non, 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 aux expulsions.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu. Vous venez d'écouter un reportage sur le rassemblement de ce jeudi contre la fin de la trêve hivernale. Et on continue tout de suite avec les infos locales, avec le report, encore une fois, du procès des Baqueux lyonnais.
Oui, alors bon, ça commence à dater et on vous en a déjà parlé plusieurs fois, mais l'affaire n'est toujours pas classée. Alors on rappelle quand même les faits. En 2019, à Lyon, pendant une manifestation contre la réforme des retraites, Arthur, qui a 23 ans à l'époque et dont le seul crime aura été de passer par la manif en sortant du travail, se fait arbitrairement attraper par un groupe de la BAC qui l'immobilise, le matraque, lui casse littéralement les dents et le défigure. Il aura la mâchoire fracturée et la cloison nasale défigurée. Il existe une vidéo de la scène qui permet de témoigner de la violence gratuite perpétuée par ces agents de la BAC. Deux d'entre eux ont été identifiés mais n'ont toujours pas été jugés puisque le procès a été reporté vendredi dernier pour la quatrième fois. Cette fois officiellement pour une erreur administrative, puisque un autre procès aurait été programmé à la même heure, dans la même salle. Une telle incompétence est inquiétante, mais surtout c'est ce que cette attente interminable du procès produit qui questionne. Outre le fait qu'Arthur a dû dépenser des milliers d'euros de sa poche pour la reconstruction de sa mâchoire, cela fait plus de 2 ans maintenant qu'il a porté plainte et que ses agresseurs sont en liberté. Pour rappel, ses agresseurs sont donc des flics, et ça veut donc forcément qu'il a porté plainte. Pourquoi ça pose problème ? Eh bien tout simplement parce que ça laisse du temps et des occasions à l'intimidation. Et ça a été le cas lors de ce quatrième report de procès. Étant donné que le procès a été reporté à la dernière minute, tout le monde s'est déplacé. Arthur, le plaignant, les flics accusés et puis aussi les amis des flics. L'un de ces derniers s'est dirigé vers Arthur jusqu'à se poster très près de lui et à le regarder dans les yeux en mettant un doigt devant la bouche, l'intimant à se taire. Et il y a des images de cette scène. Pour rappel, l'IGPN n'a toujours pas entendu Arthur. Pas sûr donc que la justice finisse par servir à quelque chose dans cette affaire. Pourtant, à Lyon, il y a des gens qui critiquent typiquement ce genre d'actes commis par la police. Et écoutons ce que le gouvernement a à dire sur eux.
Et non, toujours pas.
Ça, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau compte-rendu du Conseil des ministres. Nous en avions pris l'engagement devant les Français. Nous continuons à les protéger jusqu'à la dernière seconde du quinquennat. Cela passe évidemment par l'action que nous menons, vous le savez, en Conseil des ministres régulièrement, de dissolution, d'associations, de groupements de fêtes qui entraînent du trouble à l'ordre public ou qui menacent nos concitoyens. Aussi, lors du Conseil des ministres de ce matin, nous avons adopté la dissolution du groupement de fêtes dit « Groupe antifasciste Lyon et environ », connu pour ses actions violentes, ses appels à la haine et son incitation virulente et incessante à s'en prendre à nos forces de l'ordre. Que les choses soient dites, une nouvelle fois, nous ferons respecter l'ordre républicain jusqu'au bout et face à tous ceux qui le menacent.
Voilà, donc vous le saviez, c'était en cours et c'est officiel. Le GAL, le groupe antifasciste de Lyon et environ, a été dissous mercredi dernier lors du Conseil des ministres. C'est la première fois qu'un groupe antifasciste est dissous en France et vous venez de l'entendre de la bouche de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Les raisons avancées pour cette dissolution sont la protection des Français. Le GAL serait donc coupable de troubles à l'ordre public et serait une menace. Mais une menace pour qui ? Et quel est l'ordre républicain que défend le gouvernement ? Gabriel Attal le dit clairement, parmi ceux qui se sentent menacés par le GAL, il y a les forces de l'ordre. Mais qui se soucie de ceux qui se sentent menacés par les flics ? Encore une fois, on voit que la police est placée au-dessus de nous toutes et tous, et on l'a vu tout au long de l'émission aujourd'hui. Il est donc aujourd'hui impossible de critiquer la police, de dire qu'elle tue, mutile et fait régner la terreur dans les banlieues et les manifs. La police est réellement un outil de répression et de contrôle de la population qui ne se tient pas sage et ne joue pas le rôle qu'on attend d'elle dans l'ordre libéral, défendu et renforcé depuis des années par ce gouvernement et les précédents. Outre les forces de l'ordre, Attal parle de ses concitoyens. Mais à part la police, le GAL ne s'en prend qu'aux fachos, à ceux qui organisent des ratonnades, qui tabassent des manifestants trop à gauche pour eux dans les manifs, qui militent manu militari contre l'immigration et puis même contre l'avortement et contre les droits LGBT. C'est très parlant que Gabriel Attal et le gouvernement tiennent à défendre ces concitoyens-là. Et l'ordre républicain soi-disant en danger, c'est une société dans laquelle le fascisme non seulement existe, mais se développe de façon exponentielle. Alors que la procédure de dissolution du GAL était lancée, on apprenait le meurtre d'un rugbyman argentin par un membre actif du GUD, donc un groupe d'extrême droite aujourd'hui qui est devenu le baston social. Les discours racistes se banalisent dans les médias et on le voit particulièrement à l'approche des élections. Et cette société-là, elle ne vient pas de nulle part. Donc s'en prendre à ceux qui la critiquent et la combattent, c'est ça le vrai fascisme. Pour le GAL, maintenant, il reste un recours devant le Conseil d'État. Si ça se fait, ce sera sur du long terme et ce sera coûteux. Et bien sûr, on vous tiendra au courant. En attendant, rappelons-le, l'antifascisme n'est pas un crime.
Et on continue tout de suite avec notre interview du jour et notre invité qui est en plateau avec nous.
Alors, l'interview du jour, donc, c'est avec Ludo, qui fait partie du syndicat de la livraison, hein, donc de la CGT. Merci d'être là. Bon, t'as entendu un peu tout à l'heure déjà, tu as répondu à des bonnes réponses.
Brillamment.
Est-ce que d'abord tu peux nous présenter un peu ce que c'est que ce syndicat de la livraison ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un syndicat qu'on avait créé du coup en 2020, suite à un certain nombre d'actions qui avaient été.
Parle bien en face du micro.
Ouais, ouais. Parfait. C'est mieux ?
Ouais, c'est bien. Parfait.
C'est parfait.
Ouais.
Parfait. C'est un syndicat qu'on avait créé en 2020, du coup, suite à un certain nombre d'actions, les premières qu'on avait organisées à l'époque chez Uber et chez Deliveroo essentiellement. Donc, qui a soufflé sa première bougie en octobre dernier, qui vise à réunir du coup tous les travailleurs des plateformes et entreprises de livraison, quelles qu'elles soient. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était surtout Uber et Deliveroo qu'on avait dans le viseur, quoi, parce que c'était les deux grosses boîtes qui étaient les plus connues. Dans les dernières années, mais je pense que tout le monde l'a remarqué, on a vu énormément de boîtes avec tout type de vélos, des vélos cargo, des triporteurs, des vélos individuels, des vélos électriques, des scooters aussi, hein, plein de choses, livrer littéralement tout et n'importe quoi. Donc du coup, c'est un secteur qui est en expansion, ça se fait pas en faveur des droits des travailleurs, on espère rééquilibrer un peu la balance.
Ok, alors là on va parler de deux choses là, dans cette interview. D'abord du procès Deliveroo qui a eu lieu récemment, et puis après on parlera un petit peu plus des conditions de travail et des difficultés que subissent les livreurs et livreuses. Alors pour commencer, donc, il y a eu un procès de Deliveroo que tout le monde connaît, hein, pour travail dissimulé. Est-ce que tu peux nous en parler ? A priori tu y es allé un petit peu, donc explique-nous ce qui s'est passé, pourquoi et quelles en sont les conséquences.
Ouais, bien sûr, bah, du coup ce procès qui a été pas mal médiatisé est présenté comme le procès de l'ubérisation. Alors c'est quelque chose d'important, hein, faut pas le nier, mais c'est pas là que tout se joue, bien évidemment, quoi. Ce procès, il fait suite à une enquête de l'inspection du travail qui a été menée de 2015 à 2017, je crois, et qui a mis en évidence qu'il y avait une situation de travail dissimulé, c'est-à-dire des indices qui viennent dire que les livreurs, alors j'apprends à personne, hein, je pense, mais à l'époque c'était peut-être beaucoup moins sur le devant de la scène, et bien les livreurs, ils sont subordonnés et dépendants de la plateforme pour le calcul de la rémunération, dans les conditions de travail, au niveau de la précarité et des sanctions qu'ils peuvent subir, etc., quoi. Et tous ces éléments ensemble, ils font que l'inspection du travail a pu saisir le procureur et que ça se transforme en un procès au pénal. Donc il faut rappeler, hein, ce que c'est le pénal dans ce cas-là. Ça veut dire que c'est la société tout entière qui considère qu'elle est attaquée par le comportement de cette boîte-là. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pas ce procès qui va changer le contrat de travail que n'ont pas les livreurs aujourd'hui. Par contre, il va permettre éventuellement de faire payer une amende plutôt salée à Deliveroo et éventuellement à ses anciens dirigeants. Alors la réquisition du procureur, elles sont à 375 000, c'est le maximum, et un an de prison, je crois. Il y aura un délibéré, une décision rendue en avril. Donc c'est pas négligeable, mais ces éléments-là, s'il n'y a pas un rapport de force derrière qui vient soutenir ce qui a déjà été fait par le passé, hein, donc un certain nombre de luttes qui ont mis en évidence évidemment cette insubordination. Bon, il y a eu des procédures juridiques aussi, mais qui tout seul suffisent pas. Et bah, du coup, s'il n'y a pas un rapport de force derrière qu'on participe à construire, ça ne vaudra pas grand-chose. Bon, la CGT, en l'occurrence, elle était partie civile dans le cadre de cette procédure. C'est pour ça que j'ai pu y assister. Donc bon, c'était assez intéressant de voir du coup des patrons sur un tribunal au banc des accusés. C'est assez rare. Mais de la même manière que c'est assez rare de les voir au banc des accusés, c'est assez rare de les voir condamnés à du ferme, même si c'est la peine qui peut leur être donnée, quoi. Donc nous, on ne se fait pas forcément trop d'illusions là-dessus. Mais par contre, ça peut être un jalon pour la suite et un élément de plus qui vient soutenir que bon, même quand le rapport de force il peut sembler défavorable, même quand il y a une offensive du patronat et du gouvernement qui est assez énorme, surtout sur cette question, on se rend compte qu'en rendant visible une question et en construisant des mobilisations quand même assez massives, comme celle des dernières années à Lyon ou ailleurs, ça permet de gagner des choses, quoi.
Ok, donc affaire à suivre pour le rendu de jugement de ce procès de Deliveroo. De manière plus générale, sur la question des livreurs, il y a évidemment des graduations, des difficultés et des bagarres que vous êtes en train de mener avec le syndicat et entre livreurs, parce que toi aussi tu es livreur. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quelles sont les grosses bagarres là du moment que vous menez?
Ouais, bah peut-être pour repartir un peu des origines, du coup déjà dans les plateformes un peu historiques hein, qui utilisent toujours le statut d'auto-entrepreneur, c'est toujours les mêmes galères, conditions de travail continuent à se dégrader. Alors on avait pu rééquilibrer un peu ça par certaines grosses luttes qu'on avait menées, mais globalement c'est les mêmes problématiques, hein, la baisse des rémunérations parce que du coup c'est possible, le blocage des comptes de beaucoup de livreurs, donc une situation de précarité qui est importante, taux de turnover qui est extrêmement élevé. Alors bon, moi je me rappelle de belles actions qu'on avait fait par exemple il y a un an avec l'envahissement des locaux d'Uber qui avait permis du coup de débloquer le compte d'une bonne quinzaine de livreurs qui avaient été empêchés de travailler. Mais du coup, en plus de tous ces travailleurs-là, moi j'étais aussi, je bossais pour Deliveroo à l'époque, on a beaucoup de boîtes qui ont commencé à salarier leurs livreurs, comme par exemple mon patron hein, qui est Just Eat, mais aussi des boîtes dans ce qu'on appelle le quick commerce, la livraison de courses, les Gorillaz, Cajou, Flink. Et alors, vous les avez peut-être vus, c'est surtout à Paris qu'on les voit, mais à Lyon un peu.
Ça se développe à Lyon aussi.
Bah, ça se développe de ouf, tu as une quinzaine d'entrepôts, et puis c'est une communication qui est assez dingue. C'est des patrons qui viennent du coup vendre les conditions de travail des livreurs en disant regardez, on file des CDI aux gens, on les paye au SMIC, et on devrait les féliciter, quoi, ces patrons-là. Ouais. Et donc, tu as toute une com là-dessus hein, qui est quand même assez ahurissante, alors que les conditions, elles sont pas folles. Et la constante que tu as entre toutes ces boîtes, peu importe le contrat de travail, bon, c'est les conditions de travail qui sont pas ouf, mais aussi derrière, beaucoup de questions au niveau du travail dissimulé, pas comme on en a parlé au début, mais surtout du travail des travailleurs sans papier qui, bah, du coup, ont des conditions qui sont encore plus dégradées, une pression qui est encore plus importante, et la difficulté qu'on a dans la livraison, c'est que ceux qui n'ont pas le statut de salarié, eh bah, ils peuvent pas être régularisés selon les critères de la circulaire Valls, quoi, qui sont déjà pas fous, mais sur lesquels on peut s'appuyer. En l'occurrence, c'est pas vraiment possible. Mais même malgré ça, et les bâtons dans les roues qui ont été posés par l'abus de ce statut de micro-entrepreneur, on a eu quand même deux luttes qui ont été gagnantes sur la question, alors en région parisienne, à Paris même, je ne sais pas pourquoi je dis en région parisienne, face à deux patrons qui étaient Frischti en juin 2020 et Stewart qui est une filiale de La Poste, donc c'est quand même l'État français qui est derrière, en octobre 2021, et donc qui avait permis d'aboutir à la régularisation d'une centaine de livreurs dans le premier des cas et puis d'une dizaine dans le second, quoi. Ce qui est quand même assez incroyable parce que vraiment ça fait longtemps que des régularisations par le travail, donc par des grèves, des blocages de la production, etc., avec le soutien de la CGT, elles avaient permis d'aboutir à la régularisation quand il n'y avait pas de critères qui permettaient ça, quoi. Donc c'est un jalon qui est plutôt historique, et là le gros sujet qui arrive en ce moment et qui fait le lien entre toutes ces questions, c'est que le patronat et le gouvernement qui le soutient, ils essayent vraiment d'entériner un peu ce statut d'indépendant, pas comme les autres, par le recours surtout à différents processus juridiques, des ordonnances, en veux-tu, en voilà, qui sortent de nulle part. T'as pas de débat démocratique derrière, surtout pas. Et on aura au mois de mai, par exemple, une élection qui visera à établir la représentativité des organisations syndicales. Et là, c'est marrant, des syndicats qu'on n'avait jamais vus en des années, ils apparaissent du jour au lendemain avec des moyens, en disant ouais, c'est un truc de fou.
Lesquels, par exemple?
Le CFDT,
Non, mais c'est bien.
C'est un truc de dingue, quoi. Du jour au lendemain, en ayant un discours qui est tout à fait dangereux, quoi. Et bon, nous, on participe aussi à cette élection parce que quand il s'agit de représenter nos collègues, on ne peut pas se permettre, du coup, de jouer à la politique de la chaise vide. Mais par contre, la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on a ce secteur-là qui est bien connu, celui de la livraison, donc on pourra peut-être obtenir de meilleurs droits dans une certaine limite. Mais demain, bon, je dis demain, c'est les années à venir, le gouvernement, il laisse la porte ouverte à une généralisation du statut et à des aménagements comme ça qui permettront pas aux salariés, je dis bien salariés, d'avoir les mêmes droits que d'autres, quoi. Et ça, il y a plein de secteurs où tu as ça aujourd'hui, tu as la correction, les aides à domicile, les agents immobiliers, tu en as vraiment énormément, quoi. Donc c'est ça la question qui se pose, et c'est pour ça que dès aujourd'hui, il y a une nécessité à lutter sur ces questions pour des revendications qui sont communes. Puis nous, c'est à peu près ce qu'on arrive à faire parce qu'on voit qu'aujourd'hui, notre syndicat est l'Union des travailleurs salariés, travailleurs auto-entrepreneurs, alors qui sont dépendants d'une plateforme de livraison, mais ça n'empêche pas de discuter ensemble de comment on veut porter nos revendications, quoi. Après, il faut construire le rapport de force qui est derrière. Bon, je crois qu'on arrive à le faire assez bien, mais...
Oui, parce que vous avez vraiment des statuts très différents.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Est-ce que tu peux détailler un petit peu ça éventuellement pour qu'on comprenne?
Bah ouais, puis même les conséquences pour ceux qui nous écoutent, quoi, parce qu'on ne s'en rend parfois pas compte. Bah, pour revenir par exemple sur le procès Deliveroo, c'est un procès qui est au pénal, la CGT était partie civile, même une fédération de patrons était partie civile, donc nous on ne soutient pas forcément ça. Mmh. Mais l'URSSAF aujourd'hui, quand ils ont une plateforme qui abuse du statut d'indépendant, c'est des cotisations sociales qu'ils ne peuvent pas prélever. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on est livreur pour une plateforme comme Uber ou Deliveroo, on est les seuls à payer ses cotisations. Donc on a des droits au chômage qui n'existent pas, des droits à la sécu qui sont minimes. Mais moi, ma mère, par exemple, qui est retraitée, qu'est-ce qui permet de financer sa retraite et de lui permettre de vivre aujourd'hui ? Bah, c'est bien le travail des actifs. Mmh. Et quand on a des patrons et un gouvernement qui soutient ça, qui abuse du statut d'auto-entrepreneur, c'est des milliards d'euros de cotisations normalement versées par les employeurs, parce que c'est le fruit du travail, qui ne sont pas versées dans les caisses de retraite, quoi. Et qui font qu'un gars qui bosse aujourd'hui, eh ben, il peut avoir un accident du travail et être rémunéré 30 euros par jour pendant un mois, à peu près. Et en même temps, bah, nos anciens, qui est-ce qui paye leur retraite, quoi. C'est bien pour ça qu'il y a une attaque des arts qui est bien plus large que simplement celle qui concerne les livreurs eux-mêmes. Et la question qui se posera dès demain, indépendamment du statut, c'est qu'on l'a vu, on a de plus en plus de boîtes qui généralisent dans la vente à domicile, hein, mais il y a tout un tas d'autres produits, donc du fret, de la marchandise, de la messagerie aussi, qui commencent à être livrés en vélo. Moi, j'ai pu faire de la livraison en vélo cargo, par exemple. Et on est en train de nous dire que dans quelques années, on n'aura plus de véhicules thermiques dans les centres-villes. Et la majorité de la métropole, par exemple, ou de la mairie, va nous faire croire que du jour au lendemain, on peut transverser ça avec des vélos cargo et avec des salariés qui ont des droits qui sont vraiment à ras les pâquerettes. Et nous, la question qu'on est en train de se poser, c'est de dire que s'il y a une nécessité de répondre à des besoins qui soient d'intérêt public, il faut des conditions sociales qui soient importantes pour les salariés qui les mettent en œuvre, quoi. C'est une nécessité.
Ok, et bon, il y a un nombre qui a l'air quand même relativement exponentiel de livreurs. Est-ce que c'est lié au développement aussi du nombre de boîtes qui proposent ça, parce que c'est quand même un statut qui est profondément précaire? Comment ça s'explique, ça?
Ouais, bah la difficulté qui est derrière, tu vois, c'est que quand on regarde dans les dernières années, alors, parfois les gens, ils ont une focale qui est un peu fausse, d'imaginer qu'avec le confinement, t'as eu la livraison s'est décuplée. C'est pas vrai. T'as plus de livreurs, t'as plus de consommateurs aussi, mais on n'est pas non plus de rapport du simple au 10 fois plus, quoi.
Ouais.
Par contre, ce qui est vrai, c'est que tu as de plus en plus de boîtes qui sont arrivées sur ce marché. Alors, pas dans la livraison de repas, où elles ont toutes disparu, elles se sont rachetées, puis on a Deliveroo et Uber aujourd'hui, mais dans la livraison de course, c'est ça, ça rappelle un peu les trottinettes il y a quelques années, quoi.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Ne serait-ce que sur Lyon, tu en as 4, 5. Et quand on regarde comment ces boîtes fonctionnent, du point de vue des salariés, les mecs, ils ont beau avoir un CDI. Je prends l'exemple de Gorillaz, qui avait un dépôt à Pardieu, donc elle était assez connue, je ne sais pas pourquoi il l'a enlevé, je pense que c'est la mairie, mais je ne suis pas sûr. Cette boîte-là, les mecs, ils ont une clause de mobilité dessus qui fait que si la boîte veut se débarrasser d'eux, elle peut leur demander d'aller à Paris. S'ils refusent, bye bye. Alors comment est-ce que tu veux construire du collectif avec ça, quoi ? Et donc c'est peut-être un CDI, mais c'est pas forcément beaucoup mieux pour ceux qui bossent. Et la question qui est derrière, c'est qu'il faut pas que cette bulle, si c'en est une, grossisse, puis qu'elle explose et que ça se fasse au détriment des salariés. Aujourd'hui, si je devais te dire, bon, sur la région de Lyon, sur la métropole, des livreurs salariés, tu en as quelques centaines dans le quick commerce, je dirais peut-être les 300, en nous comptant nous à Just Eat 350, d'autres boîtes, un peu de coursiers traditionnels, tu les mets ensemble et tu arrives vers les 400, et ensuite tu as peut-être 2000 livreurs qui sont auto-entrepreneurs, mais qui peuvent bosser en complément de salaire, qui peuvent bosser un mois, le mois d'après ils bossent pas. On n'a pas moyen de chiffrer ça aujourd'hui, quoi. Et s'il n'y a pas moyen de chiffrer, c'est aussi un outil pour le gouvernement pour cacher la misère. Mais la vérité, c'est que dans les dernières années, avec ce business du coup qui a grossi, ça a mis en évidence un certain nombre de choses, et ne serait-ce que pour revenir à ce que je disais au début, quoi. Travailleurs sans papier, auparavant, chacun pouvait penser que ça n'existait pas. Ouais. Maintenant, c'est plus possible. Tous les jours, on peut voir des gars, et alors on ne va pas leur poser la question. Moi, les gens que je connais, je leur demande, mais il y en a beaucoup qui vont louer un compte à un autre livreur ou à un autre gars qui n'est pas forcément livreur pour des centaines d'euros, qui ont des conditions ultra précaires, et là, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais ce n'est pas la préfecture en période de veille des présidentielles qui va agir. Tu as un vrai blocage en ce moment. Par contre, des luttes peuvent permettre d'avancer certains sujets.
Alors justement, quelles sont vos possibilités de lutter? Elles existent. On va essayer de faire assez court, mais vous en avez. Alors, quelles sont-elles? Et puis comment, s'il y a des livreurs ou des livreuses qui nous écoutent là, comment vous rejoindre et comment rejoindre ces luttes?
Ouais, alors, faut pas se leurrer, hein. Le métier peut sembler nouveau, ce qui est à moitié vrai. L'organisation du travail, la boîte être compliquée, on va dire, c'est pas différent que dans une autre boîte, quoi. Le seul pouvoir d'action qu'on a vraiment, bah, c'est de bloquer la production, bloquer les commandes.
Toujours. Bah oui.
Bah voilà, y a rien de sensé. Bah, oui, quoi. Oui. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on est éparpillé à droite à gauche. T'as des restos partout pour la livraison de repas. Dans le cas d'autres produits, c'est pas non plus facile. Mais en fait, c'est pareil que dans plein de secteurs ultra précarisés comme le nettoyage, la sous-traitance en général. C'est les mêmes problématiques. Et nous, c'est ce qui nous a permis d'avancer sur certains sujets. Bon, parfois, je prends un exemple. On avait des collègues qui étaient sur Saint-Priest. Les mecs, ils ont menacé de grève. Ils ont même pas eu à la monnaie. Ils ont gagné de l'embauche au McDo parce qu'ils attendaient 2 à 3 heures les commandes, quoi. Ça, c'était au mois d'octobre dernier, tu vois. On a eu d'autres sujets aussi sur la régularisation.